Vous êtes à l'écoute de Radio Grand Ciel. Installez-vous confortablement pour partager une tasse de thé avec Janine Rogers et Simon Martin à la technique. Dans notre dernière émission, nous avions laissé Émilie et Charlotte en route pour Bruxelles. Elles vont y passer 10 mois dans un pensionnat. Toutes deux s'y montreront de très brillantes élèves. Au bout de ces 6 mois, on leur proposera de rester pour donner des cours d'anglais pour Charlotte et de musique pour Émilie. Mais le décès de leur tante les oblige à rentrer au presbytère. Seule, Charlotte retournera à Bruxelles pour 1 an. Elle est très appréciée comme professeure. Rentrée au presbytère, la vie lui semble très dure. Elle doit renoncer au projet d'ouvrir une école à cause de la mauvaise réputation de son frère. Alors, elle écrit. Elle commence Jane Eyre. Mais elle et ses sœurs rencontrent de grosses difficultés pour trouver un éditeur. Un jour, elle décide de se rendre à Londres avec Anne, chez justement un éditeur. Celui-ci est tout étonné de trouver devant lui deux jeunes femmes, gauches, intimidées, mal fagotées. Il publiera les romans d'Anne et de Charlotte et aussi d'Émilie la même année. Le roman de Charlotte, c'est Jane Eyre, comme je l'ai dit. Alors, vous reconnaîtrez au fur et à mesure, dans les épisodes, que c'est en fait la vie assez romancée de Charlotte. Jane est une orpheline, recueillie par sa tante, Mrs. Reed. Elle s'y sent humiliée par le traitement que lui réservent ses 3 cousins. Un jour, où John, qui est à peine plus vieux qu'elle, le fils de Mrs. Reed, la trouve en train de lire un livre qu'elle a pris dans la bibliothèque de celui-ci. Alors immédiatement, il réagit et il lui dit « Vous n'avez pas à prendre nos livres. Vous vivez à nos dépens. C'est maman qui le dit. Vous n'avez pas de fortune. Votre père ne vous a rien laissé. Vous devriez aller mendier au lieu de vivre ici avec des enfants de noble naissance comme nous, de partager nos repas et d'être habillés aux frais de maman. Et maintenant, je vais vous apprendre à fouiller dans ma bibliothèque car elle est bien à moi. Toute la maison m'appartient ou m'appartiendra dans quelques années. Allez vous mettre près de la porte à l'écart de la glace et des fenêtres. » J'obéis, sans me rendre compte tout d'abord de ce qu'il avait l'intention de faire. Mais lorsque je le vis soulever et balancer le livre, se mettre debout, tout prêt à me le jeter à la face, je m'écartais d'instinct, poussant un cri d'alarme, pas assez vite cependant. Déjà lancé, le volume m'atteignit et je tombai la tête contre la porte, me faisant une coupure. La blessure saignait, la douleur était vive, ma terreur avait passé son paroxysme et faisait place à d'autres sentiments. Méchant, cruel, vous me faites l'effet d'un assassin, d'un marchand d'esclaves et d'un empereur romain. Quoi, s'écria-t-il, c'est à moi qu'elle dit cela? Georgina, l'avez-vous entendu? Je vais le dire à maman. Quand on pense qu'ils ont à peu près le même âge. À 10 ans, elle est envoyée en pension dans une institution pour l'éducation des orphelines. Elle s'y sent solitaire, isolée, jusqu'au jour où elle parle à Helen Burns, orpheline comme elle, et qui deviendra son amie. Malheureusement, Helen mourra de tuberculose. Jane restera 8 ans comme élève à la pension, et puis 2 ans comme professeur. Après quoi, elle cherchera un poste de préceptrice. et elle sera embauchée à Thornfield pour s'occuper d'une petite fille, Adèle, et là s'ouvre un nouveau chapitre de sa vie. Elle apprend que le domaine est la propriété de M. Rochester et que son élève est la pupille de ce monsieur qui est absent à ce moment-là et très souvent absent. Un jour, au cours d'une promenade solitaire dans la lande, elle aide un cavalier dont le cheval a glissé sur le verglas et qui se retrouve à terre. Sans qu'elle s'en doute, il s'agit de M. Rochester. Tout en sachant que son jeune âge et sa situation inférieure lui interdisent tout espoir, d'autant plus que Edward est fiancé à Miss Ingram, elle tombe amoureuse de celui qu'elle appelle « mon maître ». Contrairement à toute attente, Edward lui confesse qu'il est amoureux d'elle et veut l'épouser. Jane est toute à son bonheur. Mais au cours de la cérémonie de mariage, elle apprend qu'Edouard est déjà marié à une femme devenue folle. Je vais m'arrêter là pour vous laisser découvrir les péripéties de Jane qui, à la suite de la révélation de la cérémonie de mariage, s'est enfuie et vit sous un nom d'emprunt. Monsieur Rochester fera tout pour la retrouver. Alors, rassurons-nous, tout est bien qui finit bien, ou disons presque bien. Charlotte, elle, continua à écrire. Shirley fut publiée en 1849 et Villette en 1853. L'année suivante, Charlotte épousa le vicaire de son père, mais elle mourut un an après. Le succès de Jane Eyre fut immédiat. Meilleur succès que le succès de ses sœurs, des livres de ses sœurs. Ce fut le succès d'une héroïne petite, gauche, sans beauté, mal habillée, mais obstinée, comme l'était Charlotte. Elle sut subjuguer son maître, dont elle n'avait pas peur, malgré son apparence rude, son air farouche et rébarbatif. Alors, je vais vous citer, lire la rencontre de Charlotte, de Jane et de Edward. Jane est partie sur la lande où elle se trouve bien et où elle fait une grande marche. Elle observe tout la nature autour d'elle et un bruit violent couvrit soudain ses légers clapotis, ses chuchotements, à la fois si éloignés et distincts. Un trot de cheval très net, puis un son métallique effacèrent les doux bruits des capricieux courants de l'onde. Ainsi, au premier plan d'un tableau, la lourde masse d'un rocher, ou le tronc rugueux d'un grand chêne, vigoureusement dessiné et peint en couleurs sombres. Alors elle entend un bruit qui résonnait sur les pavés. Un cheval s'avançait. Les sinuosités du chemin le cachaient encore, mais il se rapprochait. Et non seulement il y a un cheval, mais un chien qui sort de sous les buissons. Ce chien était tout proche, mais pas encore en vue, lorsque, outre le bruit du trot du cheval, j'entendis quelque chose s'élancer sous la haie et je vis glisser le long des coudriers un grand chien noir et blanc qui se détachait sur leurs branches nues. Le cheval suivait, l'être humain aussi. Cela rompit immédiatement le charme. Personne ne montait à cheval aussi difficile. Cet homme est un voyageur se rendant à Millcote par le raccourci. Il me dépassa, je continuai ma route, quelques pas, et je me retournai. Un bruit de glissade, puis cette exclamation : « Mais que diable vais-je faire à présent ? » L'homme et le cheval gisaient à terre. Ils avaient glissé sur le verglas qui recouvrait les pavés. Le chien revint en bondissant vers son maître. Le voyant ainsi en fâcheuse posture et attendant les gémissements du cheval, il se mit à aboyer avec tant de force que les sombres collines répercutèrent avec intensité ses sons puissants. Je demandai : Êtes-vous blessé, monsieur ? Puis-je faire quelque chose pour vous ? Retirez-vous seulement sur le côté, répondit-il en se mettant d'abord à genoux, puis debout. J'obéis. Alors commença une série d'efforts, de piaffements, de cliquetis, accompagnés d'aboiements qui me firent effectivement reculer de quelques mètres. Si vous êtes blessé et si vous avez besoin de secours, monsieur, je peux aller chercher quelqu'un, soit de Thornfield, soit de Hay. Merci, cela ira. Je n'ai rien de cassé et ce n'est qu'une entorse. De nouveau, il se leva et essaya de se servir de son pied, mais cette tentative lui arracha un « aïe » involontaire. Il était vêtu d'un manteau de cavalier à col de fourrure et aux agrafes de métal. Les détails de sa personne n'étaient pas apparents, mais j'eus une vue d'ensemble. Il était de taille moyenne, très large de poitrine. Il avait un visage sombre, aux traits sévères, un front massif. Ses yeux et ses sourcils froncés avaient alors une expression de colère et de contrariété. « Je ne puis songer à vous abandonner, monsieur, à une heure aussi tardive dans ce chemin désert, avant d'avoir vu si vous êtes en état de vous remettre en selle. » Pendant que je parlais ainsi, il me regarda. C'est à peine s'il avait auparavant tourné les yeux vers moi. « Il me semble que vous devriez être rentré chez vous. Vous habitez dans le voisinage ? D'où venez-vous ? » ?»« Du bas de la côte, monsieur, et je n'ai nullement peur d'être dehors à cette heure tardive quand il fait clair de lune. C'est avec plaisir que je courrai pour vous jusqu'à Hay, si vous le désirez. Je m'y rends précisément pour y mettre une lettre à la poste. Vous habitez au bas de la côte ? Est-ce dans cette maison à créneau ? » Et il désignait du doigt Thornfield. Oui, monsieur. À qui appartient cette maison ? À monsieur Rochester. Connaissez-vous monsieur Rochester ? Non, je ne l'ai jamais vu. Il n'y habite donc pas ? Non. Pouvez-vous me dire où il est ? Je n'en sais rien. Vous n'êtes pas une servante du manoir, bien sûr. Alors, vous êtes qui ? Il s'arrêta, examina mes vêtements très simples comme toujours. Je suis l'institutrice. Ah, l'institutrice ! Le diable m'emporte. Je ne m'en souvenais pas. L'institutrice. Voilà, bien, nous nous donnons rendez-vous pour un nouvel épisode des Sœurs Brontë, c'est-à-dire la vie et les écrits d'Anne et d'Émilie. Et en attendant, eh bien, bonne lecture. I call her Firefly, 'cause oh my, she radiates moon glow. Wants none of that noon glow. She starts to glitter when the sun goes down about 8 p.m. It's mayhem. She switches the brights up, lights up, and gives me a call. Take me to the Firefly's ball, but when I get her there, set her there, do I get the better there? Grab me some glow, no, she's a gadabout, mad about, luring every land about, while leaving me moaning low, Firefly. Why can't I latch on to you, know how? Oh, how I love you, but gee, while you set the night on fire, fire, shine a little light on me.